Bien, alors, je vais vous demander ce qu'on fait là. Alors, je vais faire durer le suspense parce que j'ai oublié de vous raconter une histoire puisque j'ai pas envie de rater. Donc, on fait comme si on était encore devant le monument de 1846. Parce que la petite histoire que je voulais vous raconter, elle s'est passée 100 ans plus tard, au Grand Conseil de Genève. Donc, je rappelle la chronologie. En octobre 46, prise du pouvoir, insurrection, prise du pouvoir par... par Fazi et une constituante dont les travaux se terminent avec l'adoption d'une constitution en 1847. Et 100 ans plus tard, la question s'est posée, comment on fait pour fêter le centenaire de la constitution et de la démocratie genevoise? Et la majorité de droite du Grand Conseil voulait fêter le centenaire en 1947, mais ne rien faire en 1946. Alors il y avait un député du Parti du Travail qui était un sacré orateur, qui s'appelait Jean Vincent, qui en ce moment-là s'est levé. Et il a constaté avec ironie que la majorité protestante de ce Grand Conseil venait de reconnaître le dogme de l'Immaculée Conception. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On vous a fait marcher pour quasiment ne rien voir, quoique... vous êtes dans un nouveau chemin et vous voyez que ce chemin s'appelle le chemin du 23 août. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'explications quant à la signification de ce 23 août. Le parking là-bas il s'appelle Gazomètre. Bon. En fait, vous êtes ici sur le site, l'ancien site des services industriels. Ça a été Artemis après, enfin, ça a eu plein d'histoires, mais enfin. Il y a un moment fort de ce site, qui est le 23 août 1909. C'est le jour où l'usine à gaz qui se trouvait ici a explosé. On a écrit à l'époque qu'elle avait même réveillé les morts du cimetière que vous venez de visiter. Et c'est une explosion dramatique qui a fait... le hasard fait qu'elle a fait le même nombre de morts que la fusillade du 9 novembre 1932, c'est-à-dire 13. Sauf que, à juste titre, on verra tout à l'heure qu'une mémoire ouvrière, associative, syndicale, a fini par faire prévaloir l'absence d'oubli de ces 13 morts de manifestants tués par l'armée suisse. Alors qu'au contraire, l'usine à gaz, ces 13 morts-là, on ne les connaît plus trop. Alors j'ai un peu travaillé sur ce drame. Et c'est là où je vais vous parler de la différence mouvement ouvrier, monde ouvrier, parce que ici ça concernait plus le monde ouvrier, puisque ce sont des ouvriers qui sont morts au travail. Alors en réalité, il y en a 11 qui sont morts au travail. Ça a quand même fait un petit scandale parce que parmi les morts, il y a eu 2 personnes du quartier qui n'étaient pas ouvriers. Donc ces personnes-là qui n'étaient pas ouvrières ou ouvriers, ça c'est une mort qui posait problème. Et y compris dans le journal socialiste de l'époque, Le Peuple. Le discours, au-delà de l'émoi et du moment de recueillement, d'hommage, etc., le discours politique qui a surgi, c'était de dire mais arrêtons de faire des usines là où des gens habitent. Raison pour laquelle on a fait l'usine suivante, là où se trouve le siège actuel des services industriels, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'habitants. Et donc, on a un signe très fort du fait que la mort au travail. À l'époque, et parfois aujourd'hui encore de la part de certains milieux de la société, c'est quelque chose de normal. C'est une espèce de... Enfin, c'est pas normal, c'est triste, c'est vraiment problématique, mais c'est normal, ça entre dans la logique naturelle des choses. Et donc, c'est très frappant de voir à quel point ces morts-là, dont on n'a pas les noms, qui sont peu connus. En plus, au moment du drame, n'ont pas été particulièrement... leur mort n'a pas fait l'objet d'une protestation. Parce qu'elle était dans l'ordre des choses, et je trouve ça absolument terrible. Bon. Encore une fois, c'est une thématique qui a beaucoup d'écho dans l'actualité, même si les discours sont plus heureusement les mêmes. Cela étant, je suis très frappé par... heureusement, enfin, il se trouve qu'il y a un nouveau chemin qui va être créé par la reconfiguration du quartier, donc on a mis cette date. Je savais qu'il allait y avoir cette date, ce nom de date pour la rue, mais je viens de découvrir la plaque qui est toute nouvelle et je suis vraiment frappé par le fait qu'il n'y a aucune explication. Alors peut-être qu'il faudra faire des démarches pour en obtenir. Je pense que ce serait la moindre des choses, mais en tout cas, voilà, c'est la pratique habituelle en ville de Genève, enfin dans le canton de Genève, par contre, pardon, parce que c'est une affaire qui est aussi une affaire cantonale. Ce ne sont que pour les personnalités qu'on dit de qui il s'agit. Mais en général, vous voyez, la rue du 31 décembre, par exemple, on ne vous raconte pas que c'est la restauration et le retour du patricien au pouvoir, etc. Enfin, c'est juste la rue du 31 décembre. Donc voilà, donc c'est l'habitude. En même temps, je pense qu'il faudra que certains agissent pour qu'on visibilise le sens du nom de cette rue, parce qu'il est... il est vraiment dramatique. Alors voilà. Alors on est évidemment ici dans un lieu où les traces du contre-pouvoir, les traces du monde ouvrier, ben, vous voyez, elles sont ténues. C'est là où, enfin, vous auriez vraiment pas pu, enfin, en passant là-dedans, vous n'avez pas les moyens d'avoir une quelconque information. Et voilà, donc ça valait la peine quand même de marcher jusque-là pour prendre conscience de tout ce qu'il n'y a pas comme trace de l'histoire sociale à Genève. On va aller maintenant à la CIP.
Bon, nous sommes ici dans ce qui avait été l'usine de la CIP, la Société Genevoise des Instruments de Physique. Vous avez peut-être remarqué en passant qu'on a fait un peu un tour du, non pas du mouvement ouvrier, mais de l'environnement ouvrier, puisqu'on a passé le quartier de la Jonction. On a passé une rue qui s'appelle la rue des Maraîchers, une rue, on a passé de près, tout près, David Dufour, Jean-Louis Hugon, la rue de la Puiserande un peu plus loin, qui montre que jusqu'à la fin du 19e siècle, la Jonction est un quartier agricole, où il y a eu la création du fameux cardon bleu de Plainpalais, qui est maintenant une origine protégée, ou je ne sais plus comment on dit, épineux, cardon épineux, mais bon, enfin, j'aime pas n'importe comment, donc c'est pour ça que je me souviens du nom. Après, la Jonction est devenue, notamment à cause de la CIP, mais pas seulement, si on veut voir des anciennes usines ou qui n'existent plus, il faut aller peut-être plus loin vers le dépôt des trams aussi. Il y a eu des tas d'usines à la Jonction qui presque toutes ont disparu ou ont été déplacées. J'en cite quelques-unes. Il y en a un wagon, il y avait Kugler, il y avait l'usine de décotissage d'or qui s'appelle l'usine maintenant, qui est un centre culturel, Gardy. Les cycles von Leisen et d'autres ont été déplacés, comme la Nationale, Patek Philippe, ou bien la CIP, qui était ici à l'époque. Sans compter dans ce quartier les nombreuses imprimeries, puisque les quatre journaux de Genève étaient imprimés dans le quartier, et c'est la Tribune, la Suisse, le Courrier, le Journal de Genève. J'ai oublié quelqu'un ? Non ? La Voix ouvrière, c'était pas dans le quartier, alors effectivement. Mais les quatre autres étaient ici. Et les imprimeries, les journaux, il reste le Courrier, il reste la Tribune, même si la Tribune n'est plus tellement genevoise, et depuis peu. Et puis les imprimeries, elles ont disparu. Il y avait, dans les années 70, il y avait 3500 ouvriers dans l'imprimerie, pas tous à la Jonction, mais une bonne partie avec ces grosses boîtes d'imprimerie. Ça t'adhère presque autant que l'horlogerie à cette époque-là. Et aussi l'industrie, donc l'industrie, pas seulement à la Jonction, mais dans toute la ville de Genève, dans tout le canton de Genève, a disparu, puisque ce qu'on appelait la métallurgie, qui était la mécanique, il y avait 10 000 ouvriers en 55, encore 12 000 en 65, et puis en 85, il n'y en a plus que 5 500, et puis en 2008, il n'y en a plus que 3 200. Et depuis, ça n'a pas dû franchement augmenter. Alors la CIP, pourquoi les instruments de physique? C'est parce que c'est deux ou trois physiciens qui avaient, pour leurs expériences, besoin d'instruments et qui, plutôt que les acheter à l'étranger, ont fait un petit atelier qui a disparu, lui. Vous verrez, si vous regardez, on peut se balader, on n'a pas le temps de se balader, mais il y a plein de bâtiments qui se sont appondus les uns aux autres, qui ont été rénovés, etc., qui sont... c'est un bric-à-brac assez extraordinaire. Et donc, ils créent des petits ateliers. Et puis, bon, ils font des trucs hallucinant. On en voit au musée des sciences, il y a notamment une machine à créer des aurores boréales, qui paraît-il ne marche pas, mais elle est au musée des sciences, elle n'a jamais marché. Et puis après la guerre de 14, donc, ils ont un projet, une idée lumineuse, qui est de créer des machines à pointer, c'est pas pour pointer l'heure de l'entrée et de la sortie, c'est des machines-outils qui fabriquent pas quelque chose, mais qui fabriquent des machines à fabriquer des biens de production. Et c'est des machines d'une extrême précision. À l'époque, ils étaient au millième de millimètre. Après, ils ont été au micron, c'est-à-dire au millionième de millimètre. Et ces machines sont tellement fiables que c'était assez unique à l'époque. Les premières machines que la CIP a vendues, c'était chez Ford aux États-Unis, chez Citroën aussi. Et ils ont acheté un tas de machines, Ford, etc. Et la CIP a grandi jusqu'à devenir, dans les années 60, la plus grande usine de Genève, avec plus de 1500 ouvriers. Et c'était souvent des gens du quartier qui étaient là, pas toujours, mais souvent. Et après, ben, l'usine a périclité dans les années 70. Il y a eu la crise économique, la crise du pétrole, mais aussi quelque chose d'assez... Il y a trois raisons à cette périclitation. Donc maintenant, la CIP n'existe plus à Genève. Il restait encore 30 ouvriers, ou plutôt des techniciens, qui ont été déplacés à Fribourg. Donc il n'y a plus de CIP à Genève. Et il y a eu trois raisons pour lesquelles la CIP n'a pas tenu le coup. C'est d'une part que l'électronisation, donc les machines numériques, etc., se sont développées dans les années 60, 70, surtout. La CIP en a fait, mais la précision obtenue par des machines qui étaient plus simples, parce que la précision obtenue grâce à l'électronique a fait qu'il n'y a plus un écart énorme entre les machines de la CIP et les machines de la concurrence, notamment japonaises. Deuxième chose, c'est que c'est parti surtout pas seulement dans l'automobile, mais il y a une volonté de diminuer les coûts de production. Et alors ça, chacun peut en faire l'expérience avec sa télé, son ordinateur ou son portable. Ce qui a été inventé à l'époque, dans les années, ça existait déjà avant, c'était l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de dire un ordinateur, ça dure 3 ans, et pas plus, et puis après il faut en changer, un Intel c'est 2 ans, le temps que le contrat soit au bout, etc. Et pour faire des produits qui étaient moins fiables, qui duraient moins longtemps, il n'y avait plus besoin d'avoir des machines qui étaient au millionième de millimètre. Et donc, de ce côté-là, la CIP vend. Enfin, la fiabilité et la qualité des machines de la CIP, elle est encore utile, ou d'autres boîtes concurrentes, elle est encore utile dans l'aéronautique, parce que là, on ne plaisante pas trop avec la sécurité, et dans la conquête spatiale. Le reste, les voitures notamment, une voiture aussi, c'est fait pour pas durer 100 ans. Et les machines de la CIP aussi, la troisième raison, c'est qu'elles étaient d'une fiabilité telle qu'on n'avait pas besoin de les remplacer. Et il y a encore maintenant, chez Gallet, qui fait de l'aéronautique à Genève, ils ont encore une machine CIP qui date des années 30. Donc c'était des machines qui étaient extrêmement chères, qui coûtaient des centaines, voire des millions de francs. Donc on ne va pas en acheter pour le plaisir. Et puis quand il y en a une qui a des... Alors ça, la CIP a toujours fait un bon service après-vente, en envoyant des techniciens pour réparer les machines. Donc voilà les trois raisons qui font que la CIP, c'est vraiment quasiment une mort naturelle. Alors pourquoi il y a quand même un aspect de la CIP et le pouvoir ouvrier, le pouvoir du mouvement ouvrier? D'abord, il y avait dans le personnel de la CIP était un personnel qui était trié sur le volet. C'était une aristocratie ouvrière parmi toutes les autres entreprises de Genève. Il y avait beaucoup d'entreprises de la métallurgie où il y avait des ouvriers qualifiés, mais la CIP, c'était vraiment le fin du fin. Et donc, c'est d'où la surprise dans les années 70. En 75, en 76, il y a eu des licenciements qui étaient dus à la crise du pétrole, des baisses de salaire aussi, ou la suppression du 13e mois, et il y a eu une grève. Et ça avait frappé vraiment que les ouvriers de la CIP, qui étaient pas n'importe qui, se mettent en grève et fassent. Alors j'ai une photo là qui est très mauvaise parce qu'on l'a prise depuis l'immeuble en face. On voit, on n'est pas dans cette cour, on est dans la cour ailleurs. Une photo de cette grève. Si vous voulez la regarder, vous pouvez la passer. Vous me la rendez après, parce que j'en ai encore besoin une fois. Là, c'est la même chose au Charmilles, donc la grève de la CIP. Il y avait une succursale de la CIP en face du stade des Charmilles, enfin de l'autre côté, sur le même côté. Et puis, quand il y a eu cette grève, les syndicats, notamment celui où je travaillais, ont décidé de soutenir la grève. Et ça, c'est assez. D'abord, ça ne se faisait pas souvent, parce qu'en Suisse, il y a la paix du travail. Mais il y a deux aspects à ça. C'est que d'une part, pour ce tract où on dit qu'on soutient la grève, j'ai été moi-même condamné par le tribunal arbitral de la métallurgie. J'ai été condamné, mais sans peine, parce que les patrons avaient aussi violé la paix du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette paix du travail, elle est née en 1937, enfin la vraie signature de la paix du travail en 1937. Jusqu'alors, le pouvoir dans les entreprises, Charles en a parlé tout à l'heure, le pouvoir pour les travailleurs, etc., il y avait des commissions syndicales, c'était les syndicats ou les gens qui étaient syndiqués qui avaient ce pouvoir-là. En 1937, on signe une convention disant, voilà, quand il y a un conflit, comment on va faire? Et ceux qui vont gérer les conflits dans les entreprises, ceux qui vont gérer les revendications du personnel, ce n'est plus les commissions syndicales, c'est les commissions d'entreprise qui sont élues par l'ensemble du personnel. Donc il y a une dépossession dans certains pouvoirs ouvriers, dans le pouvoir de gauche, pour dire vite, mais dans le pouvoir des syndicats qui se fait au détriment de ce pouvoir, parce que effectivement, les commissions d'entreprise vont être beaucoup plus consensuelles, elles vont avoir pour but aussi de protéger la paix du travail, etc. Alors voilà pourquoi on est au milieu du peuple ouvrier, mais on est aussi au milieu du mouvement ouvrier ici, et parce qu'il y avait ici, comme ailleurs, dans toutes les entreprises de Genève, des commissions d'entreprise, dont certaines étaient très, très politisées. Il y avait eu des grèves sauvages dans les années 70 chez Hispano, chez Vernetissa, au Charmilles, etc., qui étaient menées souvent par des militants du Parti du Travail ou des partis communistes étrangers. À la CIP, il n'y avait pas tellement ça, mais il y a quand même eu une grève. Bien, alors, on s'excuse, on n'a pas inventé le PowerPoint ambulant, ça aurait été pratique. On va aller maintenant au bout de la plaine de Plainpalais, le long du trottoir de l'avenue du Mail. Simplement, puisque le temps avance, je vous signale que au moment où vous passerez devant le bâtiment où il y a Securitas et GHI, il faut penser à vous retourner parce que derrière vous, dans la rue du Guamélie, il n'y a plus, mais il y a eu une éphémère maison du peuple qui s'est constituée en 1910 et qui a disparu, enfin, qui n'a pas survécu à la Première Guerre mondiale et dont l'Adrien Wyss, dont je vous ai déjà parlé au début de ce parcours, a été le principal initiateur. Et il y a aussi laissé pas mal, enfin, une grosse part de sa fortune, parce que ça a relativement mal tourné, mais le projet de cette maison du peuple, où il y avait des cours, où il y avait une boulangerie coopérative communiste, comme il l'appelait à l'époque, c'était un projet social et culturel absolument extrêmement intéressant, et malheureusement, on n'en a plus trace aujourd'hui, donc quand vous passez devant Securitas, vous tournez la tête et vous regardez ce que vous ne voyez pas, puisque le monde ouvrier, le mouvement ouvrier à Genève n'a pas laissé beaucoup de traces. Et on a donc deux étapes au bout, ensuite le monument du 9 novembre et le monument aux brigadistes qui est de l'autre côté de cette place dont on parlera. Juste, j'oubliais, un des premiers directeurs, c'était une génération, une dynastie de la CIP, c'était un certain Théodore Turetini, et c'est sa famille qui a donné à la ville de Genève le bois de la Bâtie, il y a 150 ans, moins une année et demie.